bizarre, fantasque, effrayant, philosophique ou malicieux.
Tout simplement universel.
Le conte.
La nouvelle ou la fable nous font des clins d'œil.
Ne boudons pas notre plaisir.
Installons-nous confortablement et écoutons.
Ciel, si ce ciel, si ce ciel.
Qu'on goûte.
Une émission proposée par Jacqueline.
Sur Radio Bartas.
La grotte. Ce samedi matin du mois de mars est enveloppé d'une fraîcheur qui oblige à se couvrir. Ces jours de relâche après une semaine de dur labeur ou de dures études, et il faut avoir une forte motivation pour entreprendre une excursion à cette heure matinale. Du givre couvre les pelouses et les toits des maisons. Le ciel est d'un rose très pâle et de la fumée gris perlé sort des cheminées. L'atmosphère est à la fois tranquille et, en même temps, il y a comme une impression de frisson, de froid, peut-être même de légère inquiétude. Une vilaine petite bise picote la peau. La campagne offre des odeurs de terre froide et humide. Malgré tout, de minuscules fleurs précoces et sans doute un peu audacieuses apparaissent ici ou là. Seul, le pas assourdi de deux marcheurs sonne sur le pavé. De dos, ils ressemblent à des portefaix affublés de fardeaux. L'aventure commence pour ces deux voyageurs silencieux, déjà concentrés sur leur projet. Ils quittent le village et brisent alors le silence, mais seulement à mots couverts. Il faut dire que leur expédition est un secret. Personne ne sait où ils vont ni ce qu'ils vont faire. Cela fait une bonne heure qu'ils cheminent et, après quelques hésitations, ils bifurquent sur un sentier à peine visible, encombré de cailloux et de branchages morts. La progression devient difficile et leurs sacs s'accrochent aux épines et autres arbustes piquants. De plus, le chemin se rétrécit de toutes parts et il devient impossible de marcher debout. Les deux compères soufflent à âne, l'heure n'est plus à la discussion. Au bout de ce parcours laborieux, apparaît une sorte d'escalier naturel. Les deux randonneurs descendent avec prudence car le sol est glissant et le poids de leur sac les déséquilibre. L'approche est délicate, mais ils parviennent à une paroi rocheuse percée d'une cavité sombre et vaguement fermée par des barbelés. Ils y sont, enfin. Cela fait longtemps que Carlo et Alex ont prémédité cette expédition. Mais jusqu'ici, ils n'étaient pas équipés pour la mener à bien et, il faut bien le dire, pas tout à fait décidés non plus. Aujourd'hui, du haut de leurs 14 ans, ils vont oser, mais ce n'est pas sans quelque appréhension. Ils ont réuni le matériel nécessaire et repéré le passage. Le passage, c'est cette cavité qui est un accès interdit, bien sûr, à la grotte. La fameuse grotte qui a souvent nourri les conversations villageoises, lieu à la fois fascinant et inquiétant. Beaucoup d'histoires ont circulé à propos de cette caverne. Certaines étaient racontées dans le but de faire peur, d'autres pour exciter la curiosité. Car cette grotte a deux accès. Un tout à fait officiel, où un guide permet aux touristes d'admirer les concrétions et autres stalagmites et stalactites. Mais la visite est limitée et ne couvre qu'une petite partie de la grotte. L'autre entrée est là, où se trouvent les deux jeunes, qui, une fois les barbelés dégagés, permet d'accéder aux galeries, chatières et passages encore inexplorés. Et où, paraît-il, circule une rivière aux couleurs extraordinaires. Si tant est qu'on puisse y voir quelque chose, car là, pas de néon, pas de fléchage, pas de rambarde, on pénètre un antre sombre, né d'un lent travail géologique, et épargné par la vague des visiteurs estivaux. C'est cette aventure qu'Alex a proposée à Carlo, se payer une balade interdite et découvrir la rivière. Carlo, dubitatif et plus anxieux que son camarade, avait hésité. Mais c'est parfois difficile de dire non, de passer pour un peureux ou un lâche. Et Alex lui avait affirmé qu'il savait où trouver du matériel, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Non pas une visite touristique, mais un vrai parcours d'apprenti spéléologue. Alex est allé fouiner dans le grenier de son grand-père, aujourd'hui disparu. Sa grand-mère, dans une confiance absolue vis-à-vis de son petit-fils et l'ignorance totale de ce qui se tramait, a donné la permission de fouiller là-haut. Et discrètement, Alex a commencé à amasser des cordes, des crochets et toutes sortes d'objets qui pourraient servir. Le plus compliqué avait été de trouver de quoi s'éclairer. Dans le temps, les mineurs utilisaient des lampes à acétylène, mais pas de telles lampes dans le grenier du grand-père. Carlo et Alex ont fait avec les moyens du bord. À défaut de lampes frontales de compétition de spéléologues professionnels, ils ont récupéré des lampes torches dans le garage familial. Ce n'est pas l'idéal, mais Alex pense que cela suffira à leur progression. Ils sont donc équipés. Et maintenant, il faut y aller. Changement de décor. La température est stable, toujours 12 degrés. Pas très chaud, mais meilleur que dehors. Par contre, question visibilité, c'est noir. Très noir même. Ouh, le contraste est brutal. La peur du noir. Ouh, tout d'un coup, Carlo a une vision de son enfance. Un souvenir surgit qui lui procure un léger frisson, comme si son corps portait encore les stigmates de ses peurs enfantines. Alex semble plus déterminé, mais il avance prudemment, car le faisceau lumineux est peu étendu. Beaucoup de glaise très humide ralentit leur marche. Il a beaucoup plu ces derniers jours, et l'eau s'est infiltrée sous terre. Ils suivent une galerie sinueuse dont la hauteur varie jusqu'à parfois frôler leur tête, car, contrairement aux vrais spéléologues, ils n'ont pas de casque. Comment auraient-ils pu justifier d'emporter leur casque de vélo alors qu'ils étaient censés être partis à pied et passer la journée chez un camarade pour, soi-disant, préparer un exposé ? À vrai dire, le dit exposé avait déjà été expédié. Quelques clics sur une certaine toile où les trois garçons avaient pioché sans vergogne, et voilà un exposé prêt à servir. Il leur faut donc être vigilants, d'autant que ni l'un ni l'autre ne connaissent la topographie du lieu. Ils ont souvent entendu des lycéens de terminale se vanter de telles expéditions, mais entre frimes, vantardises et vérités, ils n'ont jamais vu de plan ni de photo de l'endroit. La recherche de la rivière est donc une véritable aventure. Lorsqu'on est sous terre, les perceptions changent. Les odeurs, la vue, l'espace, les bruits aussi sont différents. L'eau qui goutte, la résonance, c'est un peu impressionnant. De plus, le son varie au fur et à mesure de leur progression et selon l'espace vital. Dans les boyaux, ça semble un peu étouffé, et quand l'espace se dégage, ça s'intensifie. Bien sûr, ils ont déjà fait la visite officielle quand ils étaient petits, accompagnés de leurs parents et du guide. Mais maintenant, ils sont seuls, et surtout, ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir. Ils sentent une forte humidité leur chatouiller le nez, pénétrer peu à peu les ouvertures de leurs vêtements, les manches, le col de leur blouson. Ce n'est pas très agréable. Mais bon, ils y sont. Et maintenant, ils ne vont pas reculer. D'ailleurs, arrive le premier obstacle à franchir. Une chatière, appelée aussi étroiture, est un rétrécissement important, un passage surbaissé qu'on ne peut franchir qu'en rampant. Carlo ne s'est jamais confronté à un tel obstacle et, surtout, lorsqu'il suit péniblement Alex, qui avait trouvé la stratégie pour s'y faufiler, un bras en avant avec le sac et l'autre bras le long du corps. Il réalise qu'il ne connaît pas la longueur du passage. Claustrophobie et spéléologie ne font pas bon ménage. Carlo sent une légère panique l'envahir. Il tremble, transpire, oublie de retirer son sac à dos et bien sûr, ça coince. Il lui faut reculer, retirer son sac et repartir. Il stresse. Alex, à l'autre bout, caché après un virage, se moque et le somme de se dépêcher. Il surmonte enfin cette épreuve, mais ce n'est pas sans quelques ressentiments et surtout de l'humiliation. N'est pas spéologue qui veut. Lorsque Carlo rejoint Alex, celui-ci a déjà avancé et se trouve à l'entrée d'une grande galerie. Malgré leur maigre éclairage, la vue est superbe. Et c'est bien plus beau que la visite officielle éclairée au néon. Là, les couleurs sont plus chaudes, c'est un peu magique. Hélas, leur émerveillement ne dure pas longtemps. En effet, Carlo vient d'apercevoir dans les hauteurs un amas de... De quoi, au fait? Ça ne bouge pas, mais c'est vivant. Des chauves-souris. Et elles sont nombreuses, très nombreuses. Ils ont entendu dire qu'elles s'accrochent aux cheveux. C'est une histoire qu'on racontait aux jeunes femmes pour les empêcher de sortir la nuit. Et bien sûr, les garçons aux cheveux courts ne risquaient rien. Tiens donc. D'ailleurs, c'est faux. Elles ont un système d'écolocalisation très perfectionné et savent très bien éviter les obstacles. Cependant, Carlo et Alex ne sont pas très rassurés. Mais ils ne vont pas se l'avouer. Ils sont un peu fatigués et décident de faire une pause. Ils ont faim. C'est incroyable comme ils ont perdu la notion du temps. Après s'être sustentés, ils décident d'avancer plus vite pour enfin découvrir cette rivière. Ils reprennent donc leur marche avec des hésitations quand deux voies s'offrent à eux. C'est la deuxième fois qu'ils doivent décider de leur chemin. À la première bifurcation, il y avait un cairn, un petit tas de pierres qui devait leur servir de repère au retour. Mais cette fois-ci, rien de visible. Ils vont devoir mémoriser le trajet. Ils se décident pour la droite car, en tendant l'oreille, ils ont, croient-ils, perçu une sorte de rumeur qui pourrait être un bruit d'eau. Et d'ailleurs, le niveau de glaise s'est intensifié et ça glisse, ça glisse. À peine Alex a-t-il crié qu'il dévale sans pouvoir contrôler une brusque descente qui l'entraîne vers un rocher qui déborde et contre lequel il se cogne violemment. Carlo ne voit plus tant sa chute l'a entraîné au loin. Il tente de le rejoindre rapidement, mais il maîtrise difficilement ses pas. Fini l'euphorie de l'aventure et de la découverte. Il se dit qu'il n'a pas osé refuser ce périple et qu'en vérité, c'est peut-être là que se situe la lâcheté. Ne pas avoir osé dire non. Alex l'appelle d'un ton plaintif. Visiblement, il souffre. S'écrie-t-il. Carlo, tétanisé, ne sait que dire, que faire. Il bredouille qui va l'aider, le porter, enfin, il ne sait pas trop. Alex est surtout en colère contre lui-même et demande à Carlo de chercher du secours, car en torse, foulure ou fracture, quoi qu'il en soit, la situation est critique pour lui. De plus, immobilisé, Alex commence à grelotter. Le choc de la chute, le froid et l'humidité constituent les ingrédients d'une hypothermie, et cela n'augure rien de bon. Il lui crie « Carlo est acculé. Il va devoir se débrouiller. Seul. » Il part, cachant à Alex les larmes qui lui piquent les yeux. La remontée sur la glaise est laborieuse. Il dérape, glisse, tombe, ne trouve rien pour se raccrocher, puis péniblement rejoint le carrefour des deux chemins. Ayant perdu sa vision, sa mémoire et sa sérénité, Carlo ne prend pas le chemin de gauche, mais file à droite, oubliant qu'il devait inverser son parcours. Et comme s'il était plein d'énergie et de bonne volonté, il reprend de l'assurance et avance d'un bon pied. Et cela dure tellement longtemps que soudain, il réalise qu'il ne voit toujours pas cette immense galerie où il s'était arrêté à l'arrêt. Bizarre tout de même. Et bien sûr, il comprend qu'il s'est trompé et qu'il est perdu. Ce qu'il ressent à ce moment-là est davantage la honte que la peur. Il n'a pas été à la hauteur. Il est nul. Et en plus, il a laissé Alex mal en point. Que faire ? Repartir en arrière, au risque de se tromper à nouveau ? Continuer, en espérant quoi au juste ? Il sent qu'il doit se calmer et réfléchir. Même si c'est difficile d'évaluer le temps, il sait qu'il a beaucoup marché. Revenir sur ses pas va être long et surtout repasser la chatière ne va pas être simple, encore moins pour Alex. Carlo ne connaît pas grand-chose au monde des grottes, mais il se souvient avoir entendu dire que les réseaux souterrains étaient multiples et se croisaient. Il se décide à continuer et, comme le petit poussé, il laisse des objets, timbales, gants, chocolat, bout de ficelle, pour marquer son passage. Il ne sait pas s'il a fait le bon choix, mais il reprend sa marche, tout en étant attentif au bruit, même si pour l'instant c'est silencieux, à part le tintement des gouttelettes d'eau. Ses pensées tournent à plein régime. Remords, inquiétude, avenir, savoir choisir, courage. Pas de bifurcation en vue. Carlo ne sait pas s'il avance tout droit ou s'il tourne. Mais comment faisaient les hommes préhistoriques pour vivre dans ce labyrinthe infernal ? Quasi perdu dans ses pensées, Carlo n'a pas perçu immédiatement le son lointain. C'est comme un chant. Oh non, en fait, c'est un chant.
Mais je deviens fou.
Plus il avance, plus il le semble entendre une mélodie. La panique le prend et il se met à crier en lâchant toute la tension accumulée. Et là, il n'entend plus la mélodie. Il se remet à hurler. Alors, ce n'est pas un chant qu'il entend, mais des voix lointaines. Enfin, des voix ou des cris d'animaux. Il ne sait pas. C'est flou et inquiétant. Est-ce qu'il rêve ou est-ce qu'il est éveillé ? Il s'écroule au sol, le corps secoué d'énormes sanglots. Puis, ça se rapproche. Et il ne sait pas s'il l'a entendu ou si c'est lui qui a parlé. Ça tourne dans sa tête et il sent qu'il perd les pédales. Et pour se raccrocher à quelque chose, il crie.
Oui, je suis là, c'est
assis sur la glaise, les yeux pleins de larmes, il aperçoit des ombres autour de lui. Il pousse à nouveau un cri de peur. Puis, il se force à ouvrir les yeux et essuyer ses larmes, et que voit-il ? Un groupe de personnages pittoresques. Il doute encore de leur réalité. Quand un grand barbu, à la voix douce, lui demande ce qu'il fait là en lui touchant délicatement le bras. Trois jeunes femmes et deux jeunes hommes se mettent à rire joyeusement et entonnent une chanson.
« C'est encore un rêve !»
se dit-il.
« C'est pas possible !»
Mais Le barbu l'interroge à nouveau. Carlo est troublé, bloqué. Il cherche ses mots pour expliquer sa situation et surtout celle d'Alex. C'est long et laborieux. Il se perd dans ses explications, mais un grand silence s'est fait. Il écoute attentivement.
Il faut que tu sois pressé.
Carlo recommence ses explications. C'est un peu plus clair. Le groupe se concerte et chacun s'affaire autour de lui. On lui met un casque auquel un LED puissant est accroché. On lui prête un vêtement chaud et le voilà en route, fermement encadré par le groupe.
Ne t'inquiète pas, musicien, chanteur, mais aussi spirituel. C'est bien tes petits cadeaux laissés à la grotte pour retrouver ton chemin. Tu sais, c'est vivant une grotte, mais c'est exigeant. C'est une très vieille dame qu'on doit respecter. Mais tu vois, là, elle t'a offert une belle chance. Alors maintenant, concentre-toi au carrefour, car il est tard et il ne faut plus perdre de temps.
En effet, le temps est compté pour Alex, qui a besoin d'aide, et parce que la pluie a alimenté la rivière, qui gronde au loin et grossit. Arrivé aux deux embranchements, Carlo se concentre, se rappelle qu'il a tourné à droite, et cette fois ne se trompe pas. Il était temps, car Alex n'est pas au mieux de sa forme. Le voilà embarqué par quelques bras forts et retour par un circuit fort heureusement plus rapide. Ils sortent enfin de la grotte et là, surprise, il fait une nuit d'encre.
Eh bien les petits jeunes, on peut dire que vous avez de la chance. On se fait des soirées musicales une fois par mois. C'est génial au niveau acoustique. La spéléo, c'est du sérieux. Si vous voulez, on vous apprendra, mais là, on va appeler vos parents, parce qu'ils doivent s'inquiéter, vu l'heure qu'il est.
La grotte, une nouvelle de Marguerite.
Vous venez d'écouter Compte-Gouttes sur Radio Bartas, 107 FM.